Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez lu la presse dominicale et on commence avec ce grand oral.
Ben oui, vous savez, le grand oral du bac, cette épreuve totalement inédite qui attend et turlupine les lycéens à la fin du mois. Du stress et de l'appréhension à la une de l'Alsace et peut-être une solution dans les colonnes de la Voix du Nord, où je découvre cette expérience menée dans des écoles primaires et collèges de Loos, près de Lille. De la grande section maternelle jusqu'à la troisième, plus de 800 élèves apprennent à parler en public. Public, c'est tout bête, et d'autant plus important que l'oral, socialement, c'est discriminant, disent les enseignants. Alors les enfants imaginent, répètent, et passent devant un jury composé d'autres enfants, où l'on note le sérieux, l'aisance, l'intérêt du récit. On applaudit souvent aussi. Amel, par exemple, en classe de CM2, et qui a choisi de parler de Rosa Parks, héroïne noire américaine du mouvement des droits civiques. J'avais très peur, avoue Amel, mais on a beaucoup aimé, répondent ses amis. Dans la case appréciation, ils ont écrit « brillant ». Comme quoi, un grand oral, ça peut être aussi bienveillant. Il faut voir comment on nous parle. On connaît tous la belle chanson du grand Alain Souchon, foule sentimentale. Bah tiens, j'y pense en lisant les mots de la philosophe Claire Marin ce matin dans le JDD. Parce que la foule joyeuse nous a manqué, dit-elle. Pas la foule contraignante, anonyme, agressive des transports en commun, non plutôt celle qui nous porte avec les mêmes émotions en même temps. Faire la fête, c'est l'affirmation d'un avenir possible et un besoin physique. Aujourd'hui, on ne se fait plus la bise automatique, mais on se prend dans les bras avec quelque chose de beaucoup plus authentique. L'homme est un animal social, certes, mais également donc un animal corporel qui cherche sa nouvelle place dans cette nouvelle vie. Au bureau, par exemple, une page plus loin dans le JDD, c'est l'essor du télétravail et du flex office, ce concept américain qui veut que vous n'ayez plus vraiment d'espace attitré. C'est déjà le cas pour 17% des salariés français, nous dit le journal, et le taux ne cesse de grimper avec nos gestes barrières et le prix de l'immobilier d'entreprise. Avant la pandémie, on prévoyait 7 sièges pour 10 personnes. À terme, on devrait passer à 3 ou 4, prévient une responsable. Côté pile, on parle désormais d'espace collaboratif, comme à la maison, sur un canapé, à la cafétéria. Mais côté face, c'est aussi la course au premier arrivé, premier servi. Sentiment d'être interchangeable, insécurité émotionnelle, décrypte un ethnologue.
Dans le journal, Jean-Philippe, on parle aussi de négociation.
Un mot-clé, sans nul doute, en ces temps troublés où l'actualité nous livre quasi quotidiennement son lot de fugitifs et de forcenés. Négociateur, ce fut longtemps le métier de Didier Guéguin au sein du RAID et à la une de Sud-Ouest ce matin, qui évoque les faits cocotte minute d'après confinement. Des gens qui perdent de pied, ça a toujours existé, dit-il, mais il y en a davantage aujourd'hui, c'est vrai. Et la négociation est une technique, au même titre que les tireurs d'élite. Rien que l'intonation de notre voix peut tout faire basculer. Négociation aussi et engagement sans précédent. Étape historique du G7, dixit Bruno Le Maire. Un accord de taxation des multinationales. On en parle évidemment sur le site du Monde, du Financial Times. Également le Washington Post avec, tiens, dans un coin, le retour d'un ex-président, Donald Trump. Ça faisait longtemps, qui reprend la parole, qui tente une nouvelle fois de réécrire et déformer l'histoire, écrit le Post. Je note aussi cette vidéo qui circulait cette nuit sur les réseaux. Trump à nouveau en campagne. Le Parti républicain va reprendre le Congrès, la Maison Blanche. Et plus tôt que vous ne le pensez, ça va vraiment être quelque chose de spécial. Que veut-il dire exactement? Et le sait-il lui-même.
Jean-Philippe, dans la presse ce matin, il y a aussi un autre président.
Bien différent que je découvre dans un entrefilet du Parisien aujourd'hui en France. Le président, c'est le surnom que l'on donne, ou plutôt que l'on donnait à ce sapin gigantesque de la forêt de Russey dans le Doubs. 53 mètres de haut, 20 tonnes. Planté, semble-t-il, à l'époque de Louis XIV, avec deux arbres semblables. Le premier avait pris la foudre en 83, le deuxième n'avait pas résisté à la tempête de 99. Il ne restait plus que lui, mais il a fallu abattre le président. Il était malade, il devenait dangereux. Alors on a improvisé une petite cérémonie dans la forêt. Des collégiens ont même lu des poèmes et on a joué du cor des Alpes. Je termine avec un autre géant qui nous a quittés, lui aussi, géant du papier. Il s'appelait Jacques Amalric, reporter, patron, passé par Le Monde, Libération, Washington, Moscou. Il avait 82 ans, un exemple dans notre métier, journaliste de référence, le contraire d'un homme de révérence, écrivent joliment Sylvie Kaufmann et Alain Frachon. Un côté ours, mélange de charme bougon et de râleur sentimental. Jacques Amalric aimait par-dessus tout pulvériser les poncifs, dit ses amis. Dans un déjeuner de droite, il défendait la gauche. Dans un dîner de gauche, il bataillait à droite. Jacques Amalric vivait dans l'inconfort du doute, nous dit Le Monde. Et pour nous tous, c'est une petite leçon.